Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Podcast is the new radio.
Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Quand on pense à partir à l'autre bout du monde, on pense à tout. On pense au boulot, on pense aux études, on pense au logement. Bon, en fait, si on est vraiment honnête, on pense surtout au poids des valises, à l'agent des douanes qui va valider notre visa et, concernant le Québec, à la résistance du manteau qui aura la lourde tâche d'affronter le froid sibérien local. Bref, on pense à tout, tellement qu'on en oublie parfois l'essentiel. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais le beans monumental qu'il y a eu autour de la succession de Johnny Hallyday. Vous vous souvenez, citoyen français, décédé en France, mais résident américain avec un testament US, des enfants un petit peu partout sur la planète. Bref, un gros bordel. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, mais même si le froid, ça conserve, le Québec ne vous rendra pas éternel. Alors, comment ça marche en cas de succession? Quel droit qui va s'appliquer? Hein? Grand timide que vous êtes peut-être arrivé marié, histoire de pas être tout seul. Mais savez-vous quelles lois régissent la vie de couple ici? D'ailleurs, bonne question, êtes-vous vraiment certain d'être toujours marié? Et en cas de divorce, on fait comment, c'est quoi qui se passe? Et même si vous n'êtes pas timide, et que vous êtes arrivé seul avec votre baluchon pour seul compagnon, vous n'êtes pas à l'abri de trouver ici le chum ou la blonde avec qui vous ferez votre vie. Bah alors, quid du mariage? Et si vous revenez vivre en France, que vaudra ce mariage, éventuellement? Enfin, il y a aussi des sujets plus légers, mais tout aussi importants comme acheter une maison, créer une société, etc. Avouez que ça fait quand même pas mal de sacrées bonnes raisons d'écouter cette émission. Bien que cela, je vous le garantis, ne vous octroie pas forcément des obsèques nationales et la remontée des Champs-Élysées entourée de bikers, si le pire devait arriver. Marie-Ève Lavoie est notaire, et attention, je prends mon souffle, notaire, conseillère juridique, courtier immobilier résidentiel, entrepreneur et auteur du livre « Les super conseils de votre notaire ». Ah, j'oubliais, pardon. Elle est aussi enseignante. Alors, rien que cette longue itération devrait vous suffire à vous convaincre que le notaire au Québec, bah voyez-vous, c'est pas tout à fait comme en France. C'est donc avec une notaire pas comme les autres qu'on va jaser aujourd'hui. Salut Marie-Ève.
Bonjour Jean-Michel, ça va bien?
Ça va excellemment bien. Je disais notaire pas comme les autres, ça s'applique à ton cas personnel, je crois que ça s'applique globalement au métier de notaire au Québec.
Oui, en fait, c'est très différent qu'en France.
Ah bah oui, ouais, bah rien que... Alors malheureusement, pour les auditeurs, ils n'auront que l'audio, mais là, globalement, si vous aviez l'image, vous verriez que vous avez affaire à quelqu'un de normal. Voilà, c'est, ouais, ça change un peu, c'est peut-être un poil moins rigide.
Moins brun.
Ouais, c'est ça. Exactement. Allez, peut-être ma première question, puisque c'est si différent que ça, mais... Ok, j'ai bien compris. Il y a des différences entre la France, le Québec, tout ça et tout. Mais enfin, globalement, sur la planète, il y a peut-être un trait commun, c'est que les journées ne font que 24 heures. Du coup, ma question, c'est comment c'est quoi donc qu'on fait pour être à la fois notaire, courtier immobilier, auteur, c'est à la limite, je peux comprendre, enseignant, entrepreneur. C'est comment ça qu'on fait?
Mais en fait, on coupe dans le sommeil. Donc, j'ai la chance, moi, de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Donc, souvent, mes journées commencent vers 5 heures du matin, là, très, très, très fréquemment. Et vu que j'ai aussi deux jeunes enfants, ben en fait, j'essaie de terminer là à 5 heures. Donc, je fais du 5 à 5, du lundi au vendredi. Là, ça ressemble pas mal à ça, mon horaire de travail. Et j'essaie de, en fait, je suis multitâche, là. Donc, j'aime beaucoup... faire de tout. Donc, je ne veux pas qu'une journée soit semblable à la précédente. Et j'ai aussi une équipe là, exceptionnelle. Donc, j'ai deux bureaux de notaire, donc d'où mon côté entrepreneur. Et j'ai une équipe là, sensationnelle, évidemment, là, avec moi là, pour m'aider dans toute cette gestion-là.
OK. Travail d'équipe parce que des grosses journées. Alors, je le disais, le métier de notaire est... semble et la fonction de notaire semble très différente. De prime abord, comme ça, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus ancrée dans le quotidien. Pour moi, le notaire, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va le voir vraiment dans les grands moments de la vie. Et là, pour en avoir discuté un petit peu autour de moi, j'ai l'impression qu'on consulte, qu'on discute avec son notaire. Ouais, pas aussi souvent qu'on fait l'épicerie, mais quand même très régulièrement. Je me gourre.
Non, en fait, c'est totalement vrai. Le notaire au Québec a la chance d'avoir un lien particulier avec ses clients dans tous les moments significatifs de sa vie, donc autant qu'ils soient heureux ou malheureux. Donc moi, j'ai plusieurs clients là que je vois depuis plusieurs années déjà et dont j'ai fait le premier testament, j'ai participé à l'acquisition de leur première maison, le premier chalet. J'étais là en fait pour organiser la naissance de leur premier enfant. Ensuite, malheureusement, ils se sont séparés, ils ont refait leur vie avec une nouvelle conjointe. Tu sais, dans le fond, dans tous les moments importants d'une vie, le notaire trouve son rôle à jouer. Là.
Mais tu vois, rien que dans les exemples que tu viens de citer, il y en a des sur lesquels, on va dire, grosso modo, ça rentre dans mon scope. J'achète une maison, je me marie, je divorce. Mais tu as dit, par exemple, un enfant est arrivé et là, ils ont besoin de moi. Et alors moi, typiquement dans mon imaginaire, dans mon cas personnel, j'aurais jamais pensé à voir un notaire sous prétexte que j'ai un enfant qui va naître.
Oui, ben en fait, on l'oublie parfois, mais les testaments, c'est quelque chose d'évolutif. Donc, c'est quand on a un nouveau conjoint, quand on a un nouvel enfant, c'est peut-être une bonne raison d'aller réviser son testament. Donc, c'est dans cette optique-là où est-ce que je rencontre souvent mes clients là, qui viennent d'avoir un bébé ou qui prévoient, en fait, avoir un enfant dans les prochains mois et qui veulent s'organiser, finalement, pour protéger ce futur bébé à naître.
Est-ce que tu as déjà eu pas mal de cas à accompagner, de gens, je veux dire, comme moi, qui viennent de France ou d'ailleurs, mais qui viennent de l'étranger et qui peuvent se poser pas mal de questions sur la validité, on va dire, de tous les actes notariés qu'ils ont pu faire, voire les actes juridiques. Entre guillemets, je crois savoir que la France, nous, on est peut-être plutôt pas trop mal lotis, parce qu'il semble y avoir pas mal d'accords entre le Québec, le Canada et la France. C'est peut-être pas le cas pour tous les pays. Ça se présente, ce genre de cas?
Oui, en fait, on en fait quand même plusieurs au bureau des cas d'immigrants ici là au Canada. Donc, ils ont des biens à l'étranger, que ce soit en France, en Floride ou ailleurs, et ils désirent justement mettre à jour leurs documents juridiques là pour pas qu'il y ait de complications lors d'un décès ou d'une séparation. C'est en fait faire un testament ici, c'est quand même différent là qu'en France. Donc, en France, vous avez un principe là. Vous me corrigerez si je me trompe là, ben d'héritier réservataire. Donc, en fait, que ça fait en sorte qu'on ne peut pas déshériter les enfants. On
Exactement.
Ne peut pas déshériter son conjoint marié. En fait, il y a peut-être des conditions, là. Mais, tu sais, bref, ils sont quand même protégés, là, par la loi et c'est d'ordre public. Donc, on ne peut pas déroger à ça en France. Ici, on n'a pas ce concept-là.
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Johnny Hallyday que je citais tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, il avait fait un testament de droit américain, je crois, dans lequel il privilégiait, je sais pas, un jugement de valeur, mais certains de ses enfants par rapport à d'autres. Et effectivement, en France, ça a été attaqué et débouté parce qu'on n'a pas le droit de déshériter des enfants ou de privilégier des enfants par rapport à un autre. Donc, il y a des choses qui se font de manière assez automatique, mais même quand on va faire des mesures testamentaires très particulières, je connaissais pas le terme, hein, mais des mesures testamentaires très particulières, voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas déroger, sauf cas hyper exceptionnels. Ici, ouais. En fait, on peut faire ce qu'on veut.
Exactement. En fait, vous êtes totalement libre de donner tous vos biens à qui vous voulez. Donc, c'est simple comme ça ici. Donc, en fait, il n'est malheureusement pas rare là, de voir à peu près un par mois ici au bureau qu'on fait, là, qu'on déshérite des enfants ou qu'on déshérite des conjoints. Là, ça peut sembler beaucoup, mais au nombre qu'on fait, c'est quand même un faible pourcentage, mais c'est totalement légal et totalement valide. Par contre, si vous possédez un immeuble encore en France, par exemple, en fait, les immeubles, en général, ils sont régis par la loi où ils sont. Donc, cet immeuble-là, je ne pourrais pas, par exemple, probablement faire déshériter les enfants ou le conjoint, alors qu'en France, on n'aurait pas le choix de leur donner une part de cet immeuble-là. Je sais pas si vous me suivez, là.
Ouais,
mais
tout
bref,
à fait.
Donc, tu sais, il y a quand même des lois qu'il faut savoir, là, quand on déménage au Québec pour de bon et qu'on garde un immeuble en France, que cet immeuble-là va être probablement régi selon la loi française, finalement.
D'accord. Et concernant le bien immobilier, c'est très clair. Mais pour toutes les autres mesures, imaginons, on va dire, contrat de mariage, divers et variés, on peut en imaginer pas mal. Imaginons que j'ai fait plein de choses comme ça en France. J'arrive au Québec. Bon, procédure habituelle. D'abord résident temporaire, puis après résident permanent, voire pourquoi pas citoyenneté. Qu'est-ce qu'il advient de tous les actes notariés que j'aurais pu faire avant? Ils sont encore valides? Ils sont caduques? Il se passe quoi?
Écoutez, c'est tellement du cas par cas, mais je vous dirais qu'en général, s'ils respectent les conditions du Québec, on va les reconnaître, parce que quand même, votre droit français n'est pas si loin. En fait, notre droit civil québécois est basé sur votre droit français, tu sais. Donc, c'est sûr et certain que normalement, on devrait reconnaître tous ces documents-là. Par contre, moi, quand j'ai des Français qui arrivent directement de France et que je suis la première notaire qu'ils rencontrent en arrivant ici, je leur dis toujours, écoutez, on va réviser tous vos documents-là et probablement qu'on va tout refaire à neuf, probablement, parce que les termes sont différents. Donc, tu sais, pourquoi risquer d'avoir une complexité à faire reconnaître le testament français? On va le reconnaître au bout de la ligne, mais les termes sont quand même différents. Donc, pourquoi essayer de rajouter une complexité qui pourrait être considérablement réduite en faisant tout simplement un testament ici? Si tous vos biens sont ici, ben c'est relativement simple. Je vais faire un testament comme pour tous les citoyens canadiens, là, donc très très normal. Et si vous avez un immeuble encore en France, ben là, je conseillerais à ce moment-là de faire un testament en France juste pour cet immeuble-là particulier, vu qu'il va être régi selon la loi française probablement. Mais pour tout le reste, je referais un testament au Québec pour tous vos biens qui seraient maintenant ici, finalement.
OK.
Facilité.
Oui, je comprends bien.
Le processus.
Idem pour les éventuels contrats de mariage, les choses comme ça et tout. En France, je crois que par défaut, on est en communauté de biens quand on se marie. il y a le contrat de séparation de biens qui existe. Il doit en exister d'autres, mais je suis tellement pas spécialiste. Mais par exemple, on m'a dit une chose en arrivant. L'un des premiers conseils qu'une amie m'a donné, c'est de dire attention, ne fais pas de compte joint à la banque, ou alors tu fais un compte joint mais minimal pour les dépenses de couple, mais après chacun son compte, parce que si l'un des deux époux venait à décéder, le compte joint serait, puisque le nom de la personne décédée apparaît dessus, serait automatiquement figé et l'autre époux n'y aurait plus accès, ce qui peut créer des difficultés assez monumentales. Je crois pas que ça existe ça en France. Effectivement, moi je ne suis jamais décédé, donc j'ai cette chance. Mais jusqu'ici, j'avais toujours eu que des comptes joints, par exemple.
En fait, il y a beaucoup d'éléments là, dans votre question. La première chose à savoir, c'est que au Québec, si vous déménagez au Québec, toute la petite famille, là, vous êtes marié en France ou au Québec, mais vous déménagez ici, il y a automatiquement le patrimoine familial qui va s'appliquer. Donc ça, là, peu importe là, si vous avez fait un contrat de mariage en France, ici ou peu importe où, ici, si vous divorcez ici, si vous séparez ici, il va donc avoir le partage du patrimoine familial. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Le patrimoine familial, ça comprend là, grossièrement là, les immeubles achetés durant le mariage, ça comprend les meubles à l'intérieur, les rentes du Québec accumulées durant le mariage, c'est l'automobile par exemple. Donc en mettre la majorité du patrimoine du couple là, va être là-dedans. Et là, peu importe qui va être propriétaire, on va pas mal diviser en deux.
OK.
Au moment du divorce. Donc ça, c'est le patrimoine familial. C'est très sévère. C'est d'ordre public. On ne peut pas y déroger. Donc ça, c'est pour le patrimoine familial. On n'a pas le choix. Ensuite vient le régime matrimonial qui va être régi selon le contrat de mariage. Donc oui, votre contrat de mariage devrait être reconnu ici. Donc si vous avez fait un contrat de mariage en France, lors de la célébration de votre mariage en France, on devrait le reconnaître. Donc on devrait, pour le reste qui n'est pas dans le patrimoine familial, séparer les biens chacun pour soi si vous êtes sous le régime de la séparation de biens, là, d'où l'utilité, en fait, souvent, de faire un contrat de mariage. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour le compte conjoint, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec ce que sûrement une notaire vous a dit là, dans le passé. Un compte conjoint, effectivement, c'est vraiment pas conseillé d'avoir tous ses sous à l'intérieur. Moi, j'ai des couples, par exemple, qui sont mariés depuis 50, 60 ans et que le seul compte qu'ils utilisent au jour le jour, c'est le compte conjoint. Ça, c'est vraiment pas conseillé parce qu'effectivement, lors d'un décès de un ou l'autre des conjoints, le compte va être gelé le temps que tout soit réglé. Donc, il ne sera pas gelé pendant 6 mois non plus, là. Faut bien se comprendre, là. Il va être gelé le temps qu'on s'assure qui a le droit de piger dedans, finalement, là. Donc, le temps de faire la recherche testamentaire, le temps de regarder le testament, le temps de s'assurer qui est décédé. Bon, OK. Donc là, à ce moment-là, la banque va pouvoir dégeler le compte et régler la succession finalement. Mais évidemment, il va être gelé parce qu'on veut pas qu'il y ait un vol d'argent.
Oui, forcément. Mais tu disais, ça va pas prendre 6 mois. Ça prend grosso modo combien de temps? Parce que, pareil, moi, dans mon imaginaire, dès qu'on touche à une procédure testamentaire, c'est le temps long qui s'applique, quoi. C'est moi, mon notaire en France qui me dit, oh, ça prendra que 6 mois, je le félicite, je lui fais une bise, hein. Je lui dis, oh putain, c'est rapide. D'habitude, c'est très très long pour moi.
Non, 6 mois, en fait, 6 mois, c'est plus long que ça, régler une succession de A à Z en général, là, malheureusement. Par contre, pour dégeler le compte, ça devrait pas prendre 6 mois, là. Ça devrait prendre à peu près 2 mois, mettons, là, quelque chose du genre. Le temps d'avoir l'acte de décès du gouvernement, là, c'est souvent ça le plus long. Faire la recherche testamentaire pour s'assurer qu'on a bien le dernier testament entre les mains. Et là, bingo, là, normalement, le compte va être dégelé. Par contre, ben, d'où la nécessité, en fait, de laisser de l'argent chacun pour soi dans des comptes indépendants. Donc, en fait, il devrait toujours avoir une espèce de 2, 3 000, 4 000 $ là, de disponible au moins pour subvenir à vos besoins pendant quelques mois, le temps justement que le compte conjoint soit dégelé.
OK. Tu disais en préambule de l'explication, tu parlais aussi du cas de divorce. Alors, tout bêtement, je suis marié en France. Je vis au Québec, je veux divorcer. Chérie, n'écoute pas ce podcast, c'était juste une question, c'est de la rhétorique. Donc, imaginons, voilà, je vis au Québec, je veux divorcer, je divorce où?
Vous pouvez divorcer au Québec si un des conjoints a habité ici depuis 1 an. Okay. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le Québec va avoir compétence là, pour régler votre divorce.
OK. Et si ça fait moins d'un an, je retourne en France?
Effectivement, là, à ce moment-là, ce serait ça l'idéal.
OK. Est-ce que sur le quotidien, vraiment ce que Régis va dire, la vie d'un couple ou d'une famille qui arrive au Québec, est-ce que tu aurais d'autres conseils, puisque ton livre, c'est les super conseils du notaire, est-ce que tu aurais quelques conseils pour éviter de tomber dans des pièges ou dans... souvent, quand on a un problème comme ça, c'est « Ah ben mince, je savais pas ».
Par rapport au divorce, par
rapport à tout, en fait. C'est-à-dire que, imagine, quelqu'un arrive en France, arrive au Québec, une famille, on va dire, pas forcément Crésus, parce que si c'est Crésus qui a 12 000 immeubles un petit peu partout dans le monde, de toute façon, il y a toute une équipe juridique derrière, a priori. Mais on va dire monsieur et madame tout le monde, avec pas forcément un gros patrimoine immobilier, juste un petit peu d'argent qui vient s'installer ici. S'ils arrivent, qu'ils viennent te voir, c'est quoi les premiers trucs que tu leur dis pour simplement qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles et profiter pleinement du Québec sans craindre...
Mais écoutez, c'est sûr que je commence par vérifier le testament. Donc, ce serait la première chose, parce qu'évidemment, malheureusement, tout le monde va finir par décéder un jour, là. Donc, ça...
C'est l'un des rares trucs dont on est à peu près sûr.
Exactement. Donc, je commencerais vraiment par le testament. Par contre, ce couple-là ou cette personne-là qui viendrait de France, ben, je voudrais vraiment voir avec lui s'il prévoit acquérir une maison ici, parce que le processus d'achat est extrêmement différent qu'en France. Donc, les hypothèques ici, c'est courant, là. On fait ça, 99% des dossiers ont une hypothèque à l'intérieur, alors que chez vous, c'est quelque chose quasiment de rarissime, là.
Oui.
Donc, c'est vraiment pas le même procédé. Donc, je pense qu'une rencontre avec un notaire de son choix, mais serait déjà un bon début pour avoir l'information, comment ça fonctionne ici, comment ça fonctionne avec les courtiers immobiliers, comment l'inspection, est-ce qu'elle est obligatoire, la garantie légale, c'est quoi. Bref. Vraiment avoir une base un petit peu dans tous les domaines, donc que ce soit l'immobilier, les successions, les testaments, les mandats de protection, donc les mandats d'inaptitude, là, l'ancien nom. Donc, essayer d'avoir une base dans un peu plus de domaines pour pouvoir bien réagir en société puis être bien protégé sur tous les points, finalement, là.
OK. Au niveau de la vie de famille, je veux dire que... Je dois assistance à mes enfants.
Oui, vous devez assistance à vos enfants, ça c'est certain.
Ad vitam aeternam.
tant qu'ils sont mineurs, ça c'est sûr et certain.
Okay.
Mais évidemment, il y a aussi une obligation de pension alimentaire. Hein? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu dans les médias ces derniers temps, les derniers mois.
Un petit peu, oui.
Exactement. Donc, si on est aux études à temps plein, il peut y avoir des cas où est-ce qu'on peut poursuivre ses parents pour avoir de l'aide financière pour nos études, là. Donc, quand on dit qu'on est parent pour la vie, ben c'est un petit peu vrai, là.
D'ailleurs, c'est une question, on peut poursuivre ses parents. Je reviens juste, mais je crois que c'est à peu près pareil en France. En France, effectivement, jusqu'à 18 ans, sûr et sûr, on doit assistance à ses enfants, mais globalement, on doit assistance à ses enfants jusqu'à la fin de leur jour, ou jusqu'à la fin des nôtres, si on suit le fil normal et qu'on meurt avant eux. La réciproque est vraie aussi. En gros, dès qu'il y a un des deux, si c'est les parents qui ont besoin d'assistance tout d'un coup, les enfants se doivent de leur porter assistance. Mais du coup, j'ai complètement oublié la question que j'allais poser. Bon, c'est pas grave, elle me reviendra plus tard. L'autre point que je me posais sur le quotidien, parce que je pense que ça concerne pas mal de personnes qui arrivent, c'est se lancer en affaires. Pas mal de personnes ici arrivent, ou au moins un des deux dans le couple, quand c'est un couple, se dit « moi je vais me lancer, je vais tenter l'aventure, je vais devenir entrepreneur, créer des sociétés ». Là j'imagine que le droit des sociétés doit être quand même très différent.
Oui, honnêtement, j'ai pas beaucoup de connaissances en droit français par rapport aux sociétés. Comment ça fonctionne en France? Honnêtement, peut-être que vous savez plus que moi, en fait, pour ça.
J'en ai eu, donc j'ai des petites connaissances dessus. J'ai, grosso modo, par exemple, il est maintenant, en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il est assez facile en France de créer une société en protégeant son patrimoine personnel. C'est-à-dire que, grosso modo, je crée une société... J'ai la plante parce que j'ai pas de bol, parce que c'est le Covid ou parce que je suis mauvais comme un cochon, ça peut arriver aussi. Mais c'est pas pour autant qu'on viendra me piquer ma maison ou geler mes comptes bancaires personnels.
Mais ça, c'est comme ça ici aussi au okay. Québec. Là. Donc, en fait, si vous créez une société par action, donc une compagnie là, incorporée, mm-hmm. et ça devient carrément une personne indépendante à vous. Donc, ça a un patrimoine distinct, ça a sa propre déclaration d'impôt, ça a ses propres biens. On peut la poursuivre indépendamment de vous à titre personnel, là. Donc, c'est carrément une personne indépendante. Évidemment, si vous vous cachez volontairement derrière une société pour faire, par exemple, de la fraude, là, on pourra faire ce qu'on appelle le soulèvement du voile corporatif. Et là, ça va devenir une petite exception. On va pouvoir vous poursuivre personnellement parce que là, c'était carrément illégal, là, probablement.
Oui.
Mais sinon, en général, ça devient carrément une personne indépendante de vous. Et évidemment, ben faire une société incorporée, ben ça vous protège de vos biens personnels.
OK. Et sur les différents types de sociétés, elles sont toutes un statut protecteur, parce que je sais qu'il y en a aussi plusieurs, comme en France. Il n'y a pas plus de risques, en fait, à se lancer ici qu'il peut y en avoir ailleurs.
Non, en fait, si vous vous lancez en affaires, la société par action est probablement la seule qui va vous permettre de protéger vos biens personnels. Les autres, on parle plutôt d'une société en participation, une société en nom collectif, ou ce que c'est plus des associés, mais votre patrimoine personnel va juste être mis un par rapport à l'autre, là. Mais ça va être quand même, vos biens personnels vont être un peu à risque, là, si vous vous faites poursuivre en tant que seul associé d'une société en nom collectif. La seule qui va vous protéger littéralement et véritablement, c'est la société par action.
Donc, on est bien d'accord que pour un immigrant qui arrive et qui connaît pas forcément très bien les subtilités malgré tout, même s'il y a pas mal visiblement de points communs, c'est quand même pas plus bête de passer par un notaire pour se lancer en affaires d'abord.
Effectivement, effectivement. Mais c'est pour ça que je dis que quand on arrive au Québec, ça serait vraiment important, là, même si c'est juste une heure, mais je pense qu'en une heure, n'importe qui pourrait avoir au moins les bases dans tous les sujets et au moins se mettre à niveau, si on veut, parce que c'est quand même vraiment différent, là. En fait, la pratique et comment le notaire est disponible ici, je suis certaine que c'est littéralement différent en France. Donc,
mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, et moi-même, si je dois parler un peu de mon expérience personnelle, et pourtant j'ai rencontré un notaire assez vite puisque j'ai acheté une maison, mais sorti de l'achat de la maison, je n'ai pas discuté de quoi que ce soit d'autre chose, parce que je regarde l'image du notaire, on va dire français, voilà, qu'on va pas déranger, hein, c'est très très rigide, très ouais, enfin, on lui demande pas des conseils comme ça entre deux choses. Donc, j'y ai pas du tout pensé, et c'est probablement une erreur, parce qu'effectivement, beaucoup de choses sont la terminologie. Moi, pourrais m'être intéressé un petit peu à l'entreprise. La terminologie est très différente. Quand on comprend, c'est pas si différent que de la France, effectivement, mais la terminologie est pas mal déroutante. Sauf que si on se pose pas dessus, on peut vite se gourer et probablement faire des bêtises quand même.
Oui, ben en fait, je pense que le plus grand nombre de bêtises est peut-être en droit corporatif, là, vous avez raison, mais aussi en droit immobilier, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. On parle tout simplement de l'inspection. Donc, en France, vous avez qu'est-ce qui s'appelle le diagnostic, donc qui est quasi obligatoire, là, ce que je comprenais.
Oui, tout à fait.
Donc ici, il n'y a pas ça, là, je pourrais assimiler ça peut-être à notre inspection pré-achat, qui est totalement pas obligatoire. Et là, durant le COVID, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a eu une grande effervescence immobilière. Et là, les gens, de plus en plus, commençaient à acheter des immeubles sans faire d'inspection. Donc, l'importance de cette inspection pré-achat-là, je pense qu'elle est... Elle est vraiment, vraiment cruciale, là. Écoutez, je pense pas qu'on puisse s'en passer. Et là, moi, je trouvais ça un petit peu désolant de voir autant de clients acheteurs pour avoir la dite maison qui était en surenchère, laisser tomber l'inspection pré-achat complètement, là.
Oui, c'est...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
C'est vrai, alors pour le coup, là aussi, ça recoupe parfaitement mon expérience personnelle. J'ai eu la chance d'être bien conseillé par mon courtier, Gabriel Danjou, qui a participé d'ailleurs à une précédente émission, et elle a lourdement insisté sur le diagnostic, effectivement, sur l'expertise. Et moi, pour avoir vendu des maisons ou acheté des maisons, le diagnostic, effectivement, en France, alors régulièrement, tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle loi qui fait qu'il s'épaissit et qu'il devient de plus en plus cher. Mais ceci dit, il est obligatoire. On ne peut pas vendre une maison sans un diagnostic énergétique et diverses choses. Ici, on est passé par une expertise et ça, effectivement, c'était utile.
Mais normalement, en fait, c'est quasiment un moyen de négociation, là, souvent par la suite, parce qu'on trouve un petit peu des fissures, des failles quelque part dans la maison parfois. Et parfois, ça permet de négocier le prix à la baisse. Et ça, c'est bon pour l'acheteur, mais c'est aussi bon même pour le vendeur, parce qu'à ce moment-là, ben, il sait ce qu'il vend, il sait à quoi s'attendre pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Ça le protège d'un certain degré là, par rapport à les poursuites pour vice caché. Donc, tu sais, il y a quand même une importance cruciale à ça. Et moi, je trouve ça très dommage là, que beaucoup de transactions là, passent sans avoir fait une inspection.
Oui, c'est assez dingue. C'est vrai qu'il y a pour le coup, la France est là-dessus beaucoup plus réglementée, entre guillemets, en tout cas. Il existe les mêmes choses ici, mais j'ai vu le cas aussi pour les voitures. En France aujourd'hui, il faut un contrôle technique pour acheter une voiture ou régulièrement. C'est pas le cas ici, alors qu'il existe un document qui retrace à peu près tout ce qui s'est passé sur la voiture, mais qui est pas obligatoire, qui est payant, qu'on peut demander, mais c'est pareil. Si on ne le sait pas, si on n'a pas quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et vous dit attention, quand tu vas acheter ta première voiture, fais attention à ça. Bah typiquement, c'est le genre de choses sur lequel on peut se retrouver avec. Avec une voiture qui n'en est pas une, quoi. Enfin, qui ressemble juste à un tas de tôles.
Effectivement.
C'est assez différent. Ma question de tout à l'heure m'est revenue. Est-ce que le Québec est aussi judiciarisé que ce qu'on imagine en tout cas des États-Unis? Nous, on présente souvent, vu d'Europe, on présente souvent les États-Unis comme le pays où, en gros, on fait un procès et on attaque quelqu'un pour un oui et pour un non. Et là, plusieurs fois depuis le début de la discussion, on a parlé de l'idée éventuellement de se faire attaquer ou d'attaquer quelqu'un en cas de pépin. C'est quelque chose qui se fait très facilement ici ou non, on discute quand même avant de se faire des procès.
J'aime beaucoup en fait ta question parce que ça m'amène à parler énormément de la médiation. Donc, je pense que le Québec, de plus en plus, essaie d'amener les gens à déjudiciariser leurs dossiers. On essaie de plus en plus à dire à nos clients, essayez la médiation avant d'aller à un procès, c'est cher, les frais d'avocat, ça finit plus, c'est du stress, personne n'est content à la fin, fort probablement, parce que tout le monde a perdu énormément d'argent. Pourquoi pas essayer la médiation, donc un espèce de régime alternatif pour la justice? Et je pense que ça s'en vient de plus en plus populaire ici au Québec. Aux États-Unis, je pense pas qu'on est là, puis je pense pas qu'on a jamais été ou à ce point-là où est-ce qu'on poursuivait pour 10 millions de dollars parce que le café est trop chaud. Donc, je pense pas qu'on est là.
Oui, parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis quand même, on est sur le bord de la route et puis tout d'un coup, on voit une énorme publicité colossale sur le bord de la route qui dit « Vous avez eu un accident de la route? Vous pouvez gagner des millions. Appelez-nous. » C'est une autre vision de la société. Et c'est vrai que j'ai pas vu ça au Québec.
Oui, ben effectivement, je pense qu'on vraiment on essaie de trouver un autre moyen de s'entendre. Et je pense que les Québécois de nature n'aiment pas la chicane,
ouais,
donc
n'aiment
pas le conflit. Donc si on peut leur offrir un moyen alternatif, je pense qu'ils vont s'essayer. Tu sais, à moins qu'il y ait vraiment rien à faire. Malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça parce que les palais de justice sont débordés pareil. Mais je pense que si on leur offre la médiation, ils pourraient s'essayer. Là.
Et la médiation, ça se passe comment? C'est justement, c'est le notaire qui s'en occupe? C'est un tiers de notre choix? C'est quelque chose qui est, entre guillemets, formaté? ou c'est vraiment du cas par cas?
Ben, c'est du cas par cas parce que ça dépend de la spécialisation. Comme moi, par exemple, je serais pas nécessairement, je sais pas, moi, à l'aise de faire de la médiation dans un domaine que je connais pas du tout, là. Donc, tu sais, ça va par la spécialisation. Mais, par exemple, moi, je suis accréditée pour être médiatrice dans le domaine civil et commercial. Et, donc, quelqu'un qui aurait un litige avec son voisin, là, par rapport à une clôture, donc, pourrait mandater mon bureau, là, pour les aider avec ça. Mais, souvent, le médiateur est à la décision des deux parties. Là. Donc, évidemment, c'est volontaire, hein, la médiation. Là. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde...
C'est volontaire, mais médiateur... Mais médiateur, c'est un métier.
En fait, les avocats, les notaires peuvent être médiateurs. Là.
D'accord. Ah bah, voilà, ça fait partie des choses auxquelles je ne pensais pas. Alors, c'est peut-être pareil en France, hein, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas du tout, je ne les ai pas assez pratiqués, mais dans mon esprit, quand je prends un avocat, c'est pour faire un procès. C'est... Non mais c'est vrai, c'est ça. Je pense pas forcément effectivement à ce qu'il puisse y avoir cette voie intermédiaire qui, j'imagine, permet de faire gagner beaucoup de temps et probablement pas mal d'argent.
Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, pour les honoraires, c'est drôle que vous en parlez parce qu'en France, je sais que les honoraires des notaires, ils sont réglementés.
Oui.
On ne peut pas comme magasiner son notaire. On ne peut pas.
Oui.
Tu sais, ils sont tous le même prix là, finalement. Là. Tandis que ici, ben en fait, c'est la libre concurrence, si on veut, là. Donc, on peut, chaque notaire a ses prix, chaque notaire selon ses dépenses, selon son bureau, selon ses employés, fixe ses prix, mais ils sont tous différents.
Et les notaires peuvent aussi s'installer où ils veulent ici?
Oui, effectivement. Donc, effectivement, en France,
je pense
qu'il y a comme des quotas, je pense.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans X zone, dans une zone, imaginons, ben voilà, il est, défini par la loi, décret préfectoral, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais enfin, il est défini qu'il y a deux places de notaire. Et tant qu'un des deux notaires en place ne bougera pas, il sera impossible à quelqu'un qui veut s'installer, de s'installer ici, il sera obligé de partir ailleurs. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour s'installer comme notaire, puisque et toutes les places sont prises. Et évidemment, partout, du coup, ça devient des chasses gardées. Il y aurait à la fois besoin de beaucoup plus de notaires, mais dès que quelqu'un est, imaginons, je suis un notaire d'une région, il y en a que deux, j'ai aucune envie d'en voir arriver un troisième. Voilà, parce que ça me garantit une ferme de clientèle qui compense le fait qu'effectivement, par contre, les tarifs, eux, sont réglementés. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec un notaire, ils l'ont un peu mauvaise parce que, par exemple, quand on achète une maison, en France, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire. Mm-hmm. En fait, c'est l'appellation populaire. Les frais de notaire, mm-hmm. qui sont quand même de 7%. Donc, quand on achète une maison, ça fait quand même un petit chèque à passer. Et comme ça s'appelle les frais de notaire, la quasi-totalité des gens pensent que c'est les honoraires du notaire.
Okay.
Et là, on se dit, mazette, il s'emmerde pas le notaire quand même, hein, parce que il prend des sous. Et en fait, pas du tout. Les 7% sont pour une très, très grande partie, ce ne sont que des taxes. Mmh. Et ils se battent, je sais que la corporation se bat pour qu'on change les appellations et qu'on distingue bien les honoraires du notaire qui, quand on les regarde sur la facture finale, ne sont pas si gros que ça, et les taxes de l'État qui, bon, on va dire que l'État a d'autres besoins, voilà, c'est assez différent, mais c'est vrai que c'est très réglementé. Ici, on peut s'installer n'importe où, je suis notaire à partir du moment où j'ai mon diplôme, j'imagine, je peux m'installer n'importe où.
Exactement. Donc, comme moi, j'ai fini l'école et je suis partie tout de suite à mon compte. Donc, j'ai commencé par un bureau à Blainville et ensuite un bureau à Montréal. Donc, évidemment, j'avais totalement la liberté de choisir mon local, de signer mon bail et de partir à mon compte. Et ensuite, avec les employés et tout, on grossit là, tranquillement. Mais c'est vraiment la libre concurrence pour ça.
Du coup, imaginons, je suis en France, en Belgique, n'importe où dans le monde. Je m'apprête à immigrer au Québec. J'ai écouté ce balado, comme quoi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de goût, hein, déjà. J'ai écouté ce balado et je me suis dit, dès que j'arrive, je vais quand même prendre rendez-vous avec un ou une notaire. Imaginons pour une raison qui m'échappe, mais je ne veux pas prendre rendez-vous avec toi. Comment je fais pour choisir un notaire? Il y a des conseils, des forums, des choses comme ça. Parce que tu sais, les prix sont libres. J'imagine qu'il y en a aussi des plus sympathiques que d'autres.
Voilà. Exactement.
Mais ça compte. Ça
oui,
compte.
Oui. Ben en fait, vous avez raison, ça compte beaucoup parce que moi, j'aime bien l'appellation notaire de famille. Là. Donc, comme médecin de famille, on devrait tous avoir un notaire de famille. Où est-ce qu'il est là? Ce notaire-là serait là dans tous les événements importants là, de votre vie. Donc, effectivement, il faut bien s'entendre avec son notaire. Donc, il faut que ce soit compatible là, aussi, point de vue personnalité. Mais comment on magasine, entre guillemets, un notaire, oui. là? Ça va beaucoup par le bouche-oreille. Moi, je commencerai par ça. Là. Donc, si vous avez des amis de la famille, des connaissances là, qui connaissent déjà un notaire et qui ont eu une excellente expérience, bien, peut-être commencer à l'appeler, à demander comment ça fonctionne son bureau, ça fait combien de temps qu'il est en affaires, c'est quoi sa spécialisation. Donc, écoutez, il y a rien qui fait plus plaisir à une étude de notaire de parler au client de notre étude, finalement, là, de son étude. Donc, je pense que ça commencerait par le bouche à oreille. Peut-être aller voir aussi sur le site de la Chambre des notaires, être sûr qu'il n'y ait pas une tonne de plaintes contre lui, là, par exemple. Ce serait déjà un bon début.
Ça, c'est des choses qu'on peut voir assez facilement?
Oui, en fait, sur le site de la Chambre des notaires, très facilement accessible et gratuitement, vous pouvez voir là, si votre notaire, vous rentrez son nom et son lieu de pratique, et ça vous dit s'il a fait l'objet de décisions là, disciplinaires.
Et alors, juste une petite aparté, c'est pareil, J'ai un notaire, je suis pas content de ses services, je trouve que voilà, je peux porter plainte contre mon notaire?
Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est régi là, par le Code des professions, ça a un ordre professionnel, donc la Chambre des notaires du Québec. C'est extrêmement réglementé, là, la profession de notaire. Là. Donc, tu sais, il faut pas oublier qu'on gère des millions et des millions de dollars parce que toutes les transactions immobilières qui passent dans nos bureaux, on doit se ramasser avec toutes les sommes, finalement, dans notre compte in trust. Donc, c'est très, très, très réglementé. Là. On ne peut pas gérer ça comme bon nous semble. Et si vous voulez faire une plainte contre votre notaire, vous pouvez bien sûr vous adresser au syndic de la Chambre des notaires. Mais je conseille toujours de commencer par appeler votre notaire. Essayez de voir là, comment qu'on peut régler la situation avant. Donc, tu sais, des fois, ça vaut pas nécessairement la peine de faire toute la procédure administrative là, pour quelque chose de mineur ou quelque chose qui peut se régler là, facilement.
Je posais la question parce que, alors, soyons très honnêtes, moi j'ai eu la chance de rencontrer des notaires en France qui étaient certes en général un poil rigides, mais globalement parfaitement compétents, j'ai jamais eu de soucis, mais à plusieurs reprises on a pu voir des reportages ou des cas d'actes notariés qui ont été faits pour des achats de terrain, des achats de maison, des choses comme ça et tout, sur lesquels une erreur s'est glissée, sauf que comme l'erreur maintenant est entre guillemets fixée noir sur blanc dans un acte notarié, eh ben c'est plus une erreur. Je me souviens par exemple d'une famille qui avait fait l'acquisition d'un terrain clairement dans l'optique de faire construire. Plusieurs échanges avec le notaire montraient que le notaire était parfaitement au courant de ça et en fait les vérifications n'ont pas été faites auprès de la municipalité. Il s'est avéré après que le terrain n'était pas constructible. Donc, ils se sont portés acquéreurs d'un terrain pour construire, mais qui s'est avéré non constructible. Donc, ils ont fini par poser une caravane sur le terrain. Mais c'était pas vraiment le projet. Et ils avaient aucun recours.
Je comprends. C'est très dommage, en fait, cette situation-là, c'est certain. Moi, en fait, j'en profite pour parler que c'est très, très, très important de d'abord et avant tout bien comprendre le mandat que vous donnez à votre notaire. Donc, des fois, dans une transaction, le notaire n'est pas nécessairement mandaté pour faire toutes les vérifications à la municipalité. Et des fois, il ne le sait pas. Par exemple, si vous vous prévoyez acheter une maison dans un quartier résidentiel, puis vous voulez, je sais pas moi, vous partir une garderie. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple quand même qu'on voit quand même fréquemment. Là. Et le notaire n'est pas nécessairement, premièrement, au courant que c'est ça votre projet. Là. Ça serait déjà un bon début à l'informer. Mais aussi, il n'est pas nécessairement mandaté pour faire toutes les vérifications à la ville. Donc, si vous voulez vraiment un point précis, si vous avez une particularité dans votre dossier, ben commencez par en parler à votre notaire et pas le jour de la transaction, là, si possible. Surtout, on parle de la municipalité, là. Ici, les délais, là, c'est incroyable, là, avoir une réponse d'une ville. Donc, tu sais, c'est ça. Faut agir en amont, là.
Ouais, mais c'est peut-être ça, en fait, la grosse différence, c'est que la relation entre le notaire et son client est quand même beaucoup plus dans l'échange. Parce que moi, dans ce cas très précis-là, pour les maisons que j'ai ou appartements que j'ai pu avoir en France, grosso modo, le notaire, il y avait très peu d'échanges, il était mandaté à un moment donné. Et effectivement, par contre, sans qu'on lui demande rien, toutes les vérifications sont faites auprès de tout ce qui ressemble à une administration en France, c'est-à-dire beaucoup de monde. Et à chaque fois que l'acte de vente a été signé, j'avais toujours une précision disant « Nous vous rappelons que la ville interdit l'établissement de toute activité commerciale dans ce bâtiment. » Enfin, typiquement, ce genre de choses était validé parce qu'il y avait un boulot administratif avant. Il y avait peut-être pas forcément besoin d'être à ce point-là dans l'échange. D'ailleurs, c'était en général pas demandé par le notaire et pas forcément demandé par le client que j'étais. Ici, en fait, on discute avec son notaire. Vraiment, on parle exact. De notaire de famille.
Oui.
C'est quoi mon projet? Et on s'adapte. Oui, c'est très différent. C'est beaucoup plus convivial. C'est beaucoup plus québécois, en fait.
Oui, exactement. Mmh. Mais je reviens sur l'aspect que vous avez mentionné tantôt sur les erreurs, parce que j'en parle quand même, j'ai un petit chapitre là-dessus même dans mon livre, là, parce que je trouve ça important de le préciser, on est des humains. Tu sais, vous l'avez dit tantôt, j'ai l'air normal, donc je suis humaine aussi.
Je confirme.
Donc, comme tout le monde, je fais des erreurs. On espère le moins grave possible, mais la grande majorité des erreurs qu'un notaire peut faire en pratique, là, c'est des erreurs, en fait, qui n'ont aucun dommage. Donc, on va commencer par ce principe-là, là. Donc, par exemple, que moi, vous appelez, Jean-Michel, je mets deux L, donc, à Jean-Michel. Mm-hmm. Donc, je tape deux fois le petit L. C'est une erreur de frappe. Et là, tombez-moi pas dessus parce que j'ai fait une erreur à votre nom. Donc, ça n'a probablement aucune influence. Donc, si vous appelez votre notaire, il va vous répondre probablement, « Jean-Michel, écoute, c'est pas la fin du monde. »
Des stress, ça va bien passer.
Ça va bien aller, pas besoin de faire une plainte à la chambre pour ça. Ça va bien aller, poursuis-moi pas. C'est correct, on va passer à autre chose. Tu peux dormir ce soir. Donc, tu sais, il y a des erreurs comme ça, cléricales, qu'on peut dire, qui n'ont aucun impact, finalement. Pour ceux qui auraient un impact, en fait, souvent, très, très, très souvent, la majorité d'entre eux, on peut aussi les régler sans qu'il y ait aucun dommage. Parce qu'aussitôt que le notaire est avisé, on peut faire un acte de correction, parfois. Okay. On peut essayer de régler la situation, faire un acte notarié qui va venir tout corriger, finalement. Et l'acheteur ou le vendeur vont même pas s'en rendre compte et ça va être corrigé, il n'y aura aucun impact sur sa future transaction. Bref, tout va être réglé. Donc, encore là, c'est pas la fin du monde. Donc, quand on trouve une erreur, contactez votre notaire, première chose à faire. Et si vraiment c'est une erreur insurmontable là, qui cause vraiment des dommages, bien, sachez qu'en étant un professionnel, votre notaire est assuré, donc a une assurance responsabilité, donc qui est là en cas de besoin. On espère pas y avoir recours, mais
ouais, c'est sûr.
En cas de besoin, elle est là.
OK, vraiment beaucoup plus dans l'échange. C'est vraiment la caractéristique principale. J'ai bien compris, j'arrive au Québec, premier conseil, je vais voir un notaire. Là, j'élargis un tout petit peu le scope. Si je dois me constituer, entre guillemets, mon équipe de conseil. OK, j'ai un notaire. Oui. Quels sont les... à dire dans le cadre, je veux dire un peu de la loi, de l'administration, de tous ces domaines-là, je sais pas les deux trois personnes que je devrais avoir dans mon équipe, dans ma gang.
J'espère que vous avez un bon comptable.
OK, je vais noter comptable, il faut que j'en paye un après, je sens que je vais me faire engueuler, j'ai pas de comptable.
C'est important un comptable, honnêtement, les lois fiscales au Québec sont très très particulières et surtout si vous avez des biens hors du Québec, ben ça peut devenir facilement très très compliqué là. Donc c'est sûr qu'un bon comptable, ce serait.
Alors c'est vrai que moi je me suis fait un petit peu un défi l'année dernière de faire ma première déclaration d'impôt tout seul. Alors c'était facile, c'était une demi-année, on n'avait pas bossé donc on n'avait rien à déclarer. Ceci étant dit, moi en France, pour ma petite famille avec ma chère et tendre et mes trois enfants, je faisais une déclaration d'impôt. Là, j'en ai fait une pour moi. Une deuxième pour moi, puisque c'est une pour le Québec et une pour le Canada. Deux autres, du coup, pour mon épouse. Et deux fois deux autres pour chacune de mes enfants majeurs. Donc, je me suis quand même ramassé 8 déclarations, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 8 déclarations d'impôts. Oui, c'est vrai que c'est sport, les déclarations d'impôts ici.
Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'effectivement, c'est pas une déclaration unique, là. Donc, on a une déclaration d'impôts pour le Québec, une déclaration d'impôts pour le Canada. Et là, si en plus, là, vous avez des revenus ailleurs, ou vous êtes résident d'ailleurs, mais là, on rajoute d'autres déclarations. Donc, oui, c'est sûr, ça vous prend un bon comptable, là, ça. J'en suis certaine.
Okay.
Donc, un comptable, un notaire, c'est déjà pas pire. Et sinon, ben, en fait, ça dépend, là. Après ça va être si vous avez besoin d'acheter dans les prochains mois, un courtier immobilier serait sûrement une bonne idée. Un banquier, probablement, là, si vous avez des placements ou besoin de conseils par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même des régimes très, très importants, puis très payants, là, si on peut dire, là, pour les placements ici au Québec.
J'ai vu ça. Bon, en ce moment, on parle beaucoup du REER, c'est ça? Et du CELI. Pas mal de placements et des choses comme ça. Mais OK, comptable. OK, comptable, notaire, c'est surtout ces deux-là que je retiens parce que banque, j'imagine que quand on arrive au Québec, sa première préoccupation n'est peut-être pas forcément tout de suite les placements immobiliers, enfin mobilier ou immobilier d'ailleurs, même s'il y a probablement des choses à mettre en place, mais souvent quelques-uns arrivent ici avec la carte de résident permanent, bande de petits vénards, mais la plupart d'entre nous arrivons avec des visas de résident temporaire, donc en gros, oui, on est là pour 18 mois, pour 2 ans, pour 3 ans, mais on ne sait pas si on va s'établir. Donc, on va dire qu'on pense peut-être pas forcément à la retraite ou à des choses à long terme comme ça. Ceci dit, par contre, les déclarations d'impôts, c'est vrai qu'il faut quand même se les farcir. Et puis le notaire, quoi. Hein, on vient d'en parler assez longuement, mais un notaire. Donc, un notaire au Québec, c'est sympa. On peut discuter avec. Il a le droit de vous répondre. Vous avez même entendu pendant cette émission, on peut rigoler avec son notaire. C'est sympa. Mais je suis sûr, c'est pas forcément tous les jours. Mais surtout, ça s'inscrit énormément dans le quotidien de la vie des gens.
Exactement. Ça, je suis totalement d'accord.
Bon, et ben, chers amis, vous qui nous écoutez, vous avez pas mal de choses à faire. Si vous prévoyez de venir au Québec, vous prenez rendez-vous avec un notaire. Vous avez toutes les coordonnées de Marie-Ève qui vont être évidemment en commentaire de ce podcast et puis sur le site internet comme d'habitude. Accessoirement, si vous voulez bien vous préparer, vous mettre vraiment dans le moule et avoir tous les bons conseils, il y a un bouquin qu'il faut lire.
Voilà. Oui.
Qui a aussi été écrit par Marie-Ève, oui, puisque comme elle vous a expliqué en début d'émission qu'elle ne dormait jamais, elle a le temps d'écrire, de faire des cours et des choses comme ça. Le bouquin s'appelle, que je dise pas de bêtises, « Les super conseils de votre notaire ». On en a déjà eu pas mal, mais j'imagine qu'il y en a quelques autres encore plus précis. Et puis le conseil en plus, c'est prenez un comptable et faites pas comme Jean-Mi. Voilà, soyez pas con, prenez un comptable.
Effectivement.
Marie-Ève, j'ai appris plein de trucs, c'était super super agréable. Je sens qu'il va falloir qu'on se reparle.
Oui, mais merci beaucoup pour l'entrevue, ça a été très agréable.
À très bientôt.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, ciao. Et voilà, fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.